J'étais en train de lire un article dernièrement écrit par Ron Edmondson. Ron Edmondson est un homme qui, depuis quelques années, se spécialise à travailler avec les églises. Il travaille auprès des églises, plusieurs églises, en fait, vraiment à travers les États-Unis, tout ça. Il a remarqué, parce qu'il travaille avec les églises pour les aider à voir qu'est-ce qui ne va pas bien dans certaines églises qui ne comprennent pas pourquoi ça chute et ça ne va pas tellement bien. Il veut aider, contribuer à aider ces églises qui sont en difficulté à pouvoir retrouver leur élan et savoir ce qui ne va pas bien. Et il a repéré à travers tous ses voyages et les nombreuses rencontres qu'il a faites et toutes les églises qu'il a rencontrées. Et après avoir jasé avec plusieurs personnes, il arrive à la conclusion qu'il y a certains dénominateurs communs que l'on peut retracer à travers quelques-unes de ces églises. D'ailleurs, il a écrit un article intitulé, il en nomme cinq, il dit « Cinq raisons qui expliquent le déclin de certaines églises ». Et l'une d'elles, j'aimerais souligner l'une d'elles, c'est la perte de l'excitation dans l'église. Êtes-vous d'accord avec ça? Et voici ce qu'il dit. Il dit, si vous êtes incapable de vous exciter à l'Évangile, c'est que vous ne regardez pas Jésus d'assez près. Il dit, une personne qui peut ressusciter d'entre les morts, pardonner les péchés et nous réconcilier avec Dieu, il dit, ça, c'est excitant. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui sont encore excités de l'Évangile? Moi, j'aimerais entendre des mains d'appréciation au Seigneur. Oui, bon, ça aide. Vous êtes pas mal excités ce matin, c'est bon. J'aurais été nerveux si j'avais rien entendu. J'aurais appelé Edmundston. C'est super, amen. Eh bien, vous savez que l'apôtre Paul rencontrait des églises qui avaient perdu leur excitation d'Évangile, et l'une d'elles est l'église de Galate. Effectivement, et c'est ce qu'on voit à travers toute la lettre aux Galates, comment cette église avait perdu la fraîcheur et l'excitation face à l'Évangile. Alors, comme le dit très bien Tim Keller dans un nouveau commentaire biblique qui vient toujours de sortir, là, c'est très frais, ça vient de sortir, je pense, en janvier, il dit, le livre de Galates, c'est de la dynamite. Il dit, c'est une explosion de joie et de liberté qui nous remplit de sécurité, de signification et de satisfaction. Et pourquoi? Parce que cette lettre nous emmène face à face avec l'Évangile. Plusieurs chrétiens, ajoute Tim Keller, ont l'impression que l'Évangile est plutôt pour les non-chrétiens. On voit l'Évangile comme une doctrine de base, l'ABC, en quelque sorte, qui montre le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. On pense qu'une fois converti, une fois qu'une personne est venue au Seigneur Jésus-Christ pour avoir le salut, on n'a plus besoin d'entendre ni d'étudier l'Évangile. On a besoin d'autres choses. On a besoin d'autres études plus avancées, souligne Tim Keller. Mais voici ce qu'il dit. L'apôtre Paul nous montre clairement, toutefois, dans sa lettre aux Galates, que l'Évangile n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, mais bien le A à Z de la vie chrétienne. L'Évangile n'est pas seulement le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est la manière de vivre maintenant que nous faisons partie du royaume de Dieu. L'Évangile est le moyen par lequel Jésus transforme les gens, transforme l'Église et même la communauté. Alors, dans sa lettre aux Galates, Paul nous montre comment résoudre des problèmes, par exemple, très terre à terre. Non pas en devenant de meilleurs chrétiens, mais en appelant les chrétiens à vivre selon les implications de l'Évangile. C'est très différent, les amis. Il est très pratique. Vivre selon les implications de l'Évangile va influencer pour le mieux ton Église, ton couple même et ta famille. Et pourquoi? Parce que c'est une œuvre divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans ta vie. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur un des passages dans la lettre aux Galates, courte lettre, qui nous parle justement de l'une des œuvres du Saint-Esprit, de quelques œuvres du Saint-Esprit. Alors, il est important pour nous de nous arrêter pour regarder cette importante doctrine sur le Saint-Esprit ce matin, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui nous anime, qui nous permet de vivre la vie chrétienne, autant de choses qu'il nous serait impossible de faire par nous-mêmes. Et le passage que nous allons regarder ce matin nous montre un ministère, le ministère du Saint-Esprit, et ça se trouve dans Galates chapitre 3. Donc, j'aimerais vous encourager à tourner dans Galates, si vous voulez bien. Pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué, Galates n'est pas très facile à trouver, j'en conviens. C'est quand même quelques lettres dans le Nouveau Testament. Alors, c'est pas grave. Vous savez, il n'y a pas de... C'est pas grave, hein? Regardez la table des matières. C'est vrai pour ça. Il donne toute la liste des livres. On a commencé comme ça. Tout le monde a commencé comme ça. On a tous commencé comme ça. Donc, c'est correct. Prenez pas de temps. Allez voir la table des matières ou simplement écoutez. Je vais vous le lire. Mais moi, j'aime bien voir les enfants de Dieu le nez penché là, dans les Écritures puis qui regardent les Écritures. C'est toujours... C'est là qu'on veut être comme enfants de Dieu. Juste avant de lire, j'aimerais qu'on puisse prier, si vous voulez bien. D'accord? Seigneur, j'aimerais te remercier de tout mon cœur pour ces belles trouvailles et ce bel enseignement que cette semaine tu m'as enseigné, tu as parlé à mon cœur et j'ai été édifié, Seigneur, et je veux te remercier pour ta parole, car elle est tellement fidèle à nous relever, à nous fortifier, nous consoler, nous enseigner et à nous transformer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir la richesse des Écritures. Et on a besoin de ton esprit pour ça. C'est l'œuvre de ton esprit. Et peut-être, Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un ici qui n'a pas pris cette décision de placer sa foi en Jésus-Christ. Eh bien, que ton esprit, ce matin, puisse travailler dans son cœur, lui faire dévoiler, lui montrer la beauté vraiment de Jésus-Christ et tout ce que tu fais dans nos vies. Alors que ton esprit nous aide, illumine les yeux de notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à voir la beauté de l'Évangile et voir l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'espère que vous êtes dans Galates chapitre 3. On va commencer au verset 26 et on va poursuivre au chapitre 4. Galates chapitre 3, verset 26. Voici ce que dit la parole de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce passage fait écho d'un autre passage dans Romains 8 qui parle essentiellement de la même chose. Ça parle de l'esprit qui est appelé, justement dans Romains, l'esprit d'adoption. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce passage et ces deux passages, autant dans Romains, qui est un passage parallèle que dans Galates, on parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit d'adoption et l'esprit du Fils? C'est que nous voyons quatre ministères que l'esprit d'adoption accomplit dans la vie du chrétien. Premièrement, l'Esprit nous donne une nouvelle identité. Verset 26, c'est ce que nous voyons au chapitre 3. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus. Vous avez revêtu Christ. » Drôle d'image, n'est-ce pas? On parle d'un costume, d'un revêtement, d'un vêtement. Vous avez revêtu Jésus. Paul nous dit que ceux qui sont venus à Jésus-Christ pour avoir le salut sont revêtus d'un nouveau vêtement, revêtus d'un habit, d'une toge. Et ce vêtement, c'est Jésus. Paul va se brancher à un thème que l'on va retracer, qu'on va voir à travers les Écritures. Par exemple, on connaît bien l'histoire du fils prodigue. Celui-ci qui a pris même tout son héritage, alors que son père est encore vivant, demande son héritage, s'en va mener une vie de débauche, dépense toute sa fortune et finalement réalise quelle gaffe il a fait, comment il a péché, Il a humilié son père, sa famille, il s'est éloigné. Et à un moment donné, lorsqu'il le réalise, il revient à son bon sens, il veut se repentir, demander pardon à son père, il retourne voir son père. Et lorsque son père le voit au loin, commence à courir et ne laisse même pas son fils le temps de demander pardon, alors que le père va tout de suite le bénir, lui faire du bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait revêtir d'un beau vêtement, d'un beau manteau, d'une belle tunique, son fils. Le même thème va se retrouver d'ailleurs dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, chapitre 2, chapitre 3. On voit par exemple que l'une des premières choses qu'on va remarquer dans le Jardin d'Éden, c'est la nudité. Les deux sont nus, Adam et Ève. Et la nudité représente dans Genèse, dans le Jardin d'Éden, l'innocence humaine. L'homme et la femme sont si libres de toute gêne qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont nus. Il n'y a pas de honte, rien. Mais après la chute, après que l'homme et la femme ont péché, l'homme va se détourner de Dieu et la femme et l'homme se rebellent contre Dieu et s'éloignent de Dieu. Et c'est ce que le péché va faire. L'une des premières choses que le péché va faire lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu entretiens et pratiques le péché, sans avoir l'attitude de repentance et de vouloir confesser. On ne parle pas de quelqu'un qui tombe et se relève, demande pardon à Dieu et c'est sûr, il est pardonné, tout ça. Là, on parle de la personne qui va entretenir le péché. L'une des choses que tu vas voir, c'est qu'il va tranquillement s'isoler puis s'éloigner. Une des choses qu'on voit d'ailleurs, une personne va s'éloigner. C'est tout à fait propre au péché, à quelqu'un qui va entretenir le péché, à s'isoler puis tranquillement s'éloigner. D'ailleurs, dans son livre de Dietrich Bonhoeffer, écrit le titre, c'est « Life Together », voici ce qu'il dit. Il dit « Le péché incite l'homme à se retrouver tout seul. Il le soustrait de la communauté. Et plus une personne s'isole, plus la puissance du péché pourra le détruire. Le péché veut rester anonyme. Il fuit la lumière. Et dans les ténèbres, il empoisonne tout notre être. » Ça, c'est propre au péché, de nous isoler, de nous éloigner. Adam fuit Dieu. Et voilà que ce qui représentait l'innocence humaine envahit maintenant l'homme et la femme d'un sentiment de honte. Une honte qui incite l'être humain à courir et à fuir, à se cacher, et il va même se revêtir de quelques feuilles de figuier, instinctivement. Et tout de suite, Adam et Ève vont se fabriquer le premier vêtement dans l'histoire de l'humanité. Un vêtement fabriqué de feuilles, des feuilles de figuier. Réalisez-vous que la première pièce de vêtement introduite dans toute l'histoire de la Bible est le vêtement que l'homme essaie de fabriquer lui-même sans le secours de Dieu pour cacher sa honte. C'est le vêtement de l'être humain qui essaie de fabriquer par lui-même afin de se cacher sa honte devant Dieu. Maintenant, ça nous parle tout de suite, déjà là, au début de la Genèse. Ça nous parle tout de suite de l'effort de l'homme de vouloir chercher par ses propres forces à essayer de cacher cette honte, d'essayer de retrouver de la justice, de retrouver son innocence. Déjà là, dans les premiers chapitres de la Bible, on voit l'effort de l'homme de vouloir régler ses problèmes par lui-même. Quelque chose ne va pas bien, c'est le péché. Et l'homme est prêt à dépenser beaucoup d'énergie à essayer de retrouver son innocence. Mais cette tentative de fabriquer ce vêtement par soi-même ne pourra jamais nous rétablir notre relation avec Dieu parce que nous sommes séparés. Parce que cette impulsion à nous couvrir nous-mêmes est probablement l'expression la plus claire, en fait, de notre éloignement de Dieu. Ça montre à quel point nous sommes rendus loin de Dieu. Nos efforts à vouloir créer notre propre justice sans l'aide de Dieu, à gagner notre propre salut montre en fait, c'est voué à l'échec. On ne peut rien faire pour résoudre notre éloignement de Dieu. Ça ne fait simplement que de montrer à quel point on est rendu loin de Dieu. Le premier vêtement sur terre, des feuilles de figuier cousues ensemble, ne pouvait pas durer. On le sait bien, hein? Ça ne pouvait pas durer. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là car Dieu refuse de laisser l'humanité essayer de se couvrir, de couvrir sa honte, de sa culpabilité, de sa malédiction, parce que Dieu sait que c'est absolument impossible, ça ne fonctionnera pas. Dieu vient voir l'homme et lui demande, « Qu'est-ce que tu as fait? » Et ce que nous voyons dans Genèse 3, 21, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Dieu lui-même fabrique un vêtement. Il l'apporte à Adam et Ève. Et Dieu place l'habit sur eux avec ses propres mains. Déjà à ce moment-là, nous voyons l'énorme différence entre l'effort de l'être humain à couvrir sa honte et l'œuvre de Dieu pour s'en débarrasser. Dès le commencement de l'histoire, nous voyons que le salut de l'humanité ne sera jamais acquis par nos propres efforts. Toute tentative de vouloir se sauver exprime jusqu'où on est tombé loin de la communion de Dieu. Et Paul va reprendre cette image-là. Au verset 27 dans Galates 3, « Vous avez revêtu Christ, vous avez été revêtu par Dieu. » Mais Paul va plus loin. À notre grande surprise, il ajoute, « Vous avez revêtu Jésus-Christ. Vous avez revêtu le Fils de Dieu lui-même. Dieu est devenu un vêtement afin que tu sois entièrement libéré du besoin de te revêtir, de te cacher, de fabriquer ta propre justice. Même les bonnes choses que l'on pourrait faire même, Ésaïe nous dit, c'est de la souillure. Bizarre, Ésaïe ne dit pas, dans Ésaïe 64, 6, Ésaïe ne parle pas au peuple parlant des œuvres mauvaises, de vos péchés, de votre immoralité. Non, il parle des bonnes œuvres. Il dit, vos œuvres de justice même sont comme un vêtement souillé. Même les bonnes choses que l'être humain pourrait faire, il y a tellement des motifs tortueux dans le cœur de l'homme que même les bonnes choses qu'on pourrait faire, à quelque part au fond de notre cœur, ça vient, c'est souillé. Ce n'est pas 100% propre. Ce que nous avons, c'est nous avons besoin du vêtement que seul Dieu peut nous donner. Et pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nous avons revêtu Jésus-Christ. Ce que ça signifie pour nous, c'est que Dieu ne se résigne pas uniquement à nous tolérer. Au contraire, il nous bénit au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Il nous donne une nouvelle identité. Il va nous revêtir de Christ. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Jésus-Christ. Il nous donne une nouvelle identité complète. Nous sommes maintenant fils de Dieu, un enfant de Dieu, guéri de toute la honte qui nous habitait. Nous avons été embrassés par le Dieu qu'on éloignait et qu'on fuyait. Et l'Esprit du Fils commence en nous donnant une nouvelle identité. Il nous permet aussi de vivre selon cette nouvelle identité. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes différents. Nous avons changé. Alors l'Esprit d'adoption nous donne une nouvelle identité et aussi nous donne une nouvelle famille. Verset 27, au Galates 3, verset 27, voici ce qui est écrit. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, plus d'homme, ni de femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Notre nouvelle identité signifie qu'on vient de naître dans une nouvelle famille. Et dans cette famille, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de juif, de grec. Il n'y a plus d'esclaves, il y en avait beaucoup dans l'Antiquité, surtout dans l'Empire romain. Il dit que vous soyez libre, riche, pauvre, femme, homme, il n'y a plus de différence aux yeux de Dieu, il n'y a plus de ces classes sociales, c'est fini, plus de ces distinctions, et c'était très fort dans l'Empire romain. Si tu étais riche, tu avais plusieurs faveurs, il y avait des gens qui étaient, ça dépendait de ton statut. Mais dans cette nouvelle famille, l'unité repose sur de nouveaux fondements, nouvelles assises. Tout ce qui nous distinguait dans le monde, là, c'est fini. Toutes les hiérarchies, les distinctions que nous avons créées dans le monde s'effacent maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Parce qu'on a une nouvelle famille, on a une nouvelle identité, et que nous sommes tous ensemble revêtus de Jésus-Christ, nous avons tous été acceptés. Paul ne dit pas qu'il n'y a plus de différence, mais il n'y a plus de distinction comme le monde le fait. C'est fini. On garde nos personnalités. On n'est pas des marionnettes, des robots. On est différents les uns des autres. On a différents talents, différents dons. Et c'est correct. Dieu nous a fait comme ça. Mais il n'y a plus de classe. C'est fini, ça. Paul commence avec les deux groupes, les pires, les Grecs et les Juifs. Ça, c'est comme les Palestiniens et les Juifs aujourd'hui, là. Il va à l'extrême pour nous dire, écoutez, l'Évangile a fait tomber les murs hostiles qu'on a érigés dans notre vie d'autrefois. Ça tombe. tous les murs que nous avons érigés, comme le racisme, les choses sociales, les couples brisés, tout ça, ces murs hostiles qu'on a fabriqués tombent et devraient tomber avec l'Évangile. Maintenant, l'Église primitive comprenait très bien ça. Les érudits ont découvert quelque chose de vraiment intéressant, c'est que dans les premiers baptêmes, lorsque les chrétiens se faisaient baptiser autrefois, surtout dans l'Église primitive, les premières années, le verset 28 était cité, on le citait, on le disait. Lorsqu'une personne venait de se convertir, venait d'accepter le Seigneur et s'approchait pour se faire baptiser, ce qu'on disait, la personne, c'est devenu une formule liturgique, on prenait la personne qui venait de se convertir et on disait publiquement, avant de rentrer dans l'eau, il disait, lorsque tu seras dans l'eau, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus de femmes, plus d'hommes, plus d'esclaves, libres, c'est fini là. Tu réalises ça. Et on citait le verset 28 dans l'Église primitive. Et il y a une raison pour ça. Il y a absolument une raison. C'est, tu fais maintenant partie d'une nouvelle famille. Et pour emprunter même une expression qu'on voit au deuxième siècle d'ailleurs, tu fais partie maintenant d'une nouvelle race. C'est fini. On proclamait haut et fort le verset 28 lors des services de baptême, car on voulait que les premiers chrétiens comprennent que s'ils ne vivent pas comme ça, comme une nouvelle famille, s'ils ne vivaient pas dans l'unité, comme une famille unie et réconciliée, ils mettaient en danger l'Évangile. C'était très important, cette notion-là. Maintenant, si c'est vrai, et on sait que ça l'est, on doit se poser des questions ensemble, des questions des fois qui sont difficiles. Avons-nous une famille unie? Avons-nous une église ici, une famille, c'est comme ça qu'on l'appelle, unie? Il faut se la poser, parce que ça reflète l'Évangile, voyez-vous? Ne pas être unie. Un couple qui est dans le Seigneur, où les deux, un enfant de Dieu, une femme de Dieu et un homme de Dieu, qui érigent des murs hostiles entre chacun, ne reflète pas l'Évangile. C'est grave, il faut se dépêcher pour régler ça. Car ce n'est pas juste mon bonheur qui est en jeu. Et on sait qu'il y a beaucoup de souffrance dans les couples où ça ne va pas bien. Là. Mais il y a quelque chose de plus grand ici aussi. C'est l'Évangile. On risque d'entacher la beauté et tout le message de l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a un lien qui se fait dans Éphésiens 5 entre l'unité du couple et on va le comparer au mariage spirituel. On va dire que l'Église est l'épouse de Christ. Et il y a un lien là qui se fait, c'est ensemble. L'Esprit Saint qui nous donne une nouvelle identité, une nouvelle famille de personnes réconciliées. Une nouvelle famille où tous les murs d'hostilité se sont écroulés parce que Jésus a guéri et a réconcilié la plus grande division de l'humanité. Voilà ce que fait l'Esprit. Voilà ce que fait l'Esprit d'adoption. Il nous donne une nouvelle identité, une nouvelle famille. Et aussi, il nous donne une nouvelle liberté. C'est vraiment en Jésus-Christ qu'on va connaître la liberté. Moi, je me rappelle lorsque mes enfants étaient adolescents. Et moindrement que j'encadrais tout ça, et on donnait des règles à la maison, évidemment. Et l'une des phrases que mes enfants me disaient souvent, c'est ça, tu ne me fais pas confiance, et je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas libre. Si tu as des jeunes enfants, là, attends-toi, tu vas l'entendre. J'étouffe. Et tout de suite, on va dire ça, on étouffe. Mais la personne ne réalise pas et on réalise. C'est vraiment en Jésus-Christ que tu découvres la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais faire ce que tu veux. Bon, je vais te le prouver tout de suite. Moi, en ce moment, j'aimerais bien être à Cancun. Je ne peux pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est avec vous autres. Tu ne pourras jamais, si le sentiment de liberté se mesure dans ce que tu peux faire et ne pas faire, tu ne seras jamais libre. Jamais. Mais la liberté, on le découvre en lisant les Écritures, se trouve vraiment en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous donne, une nouvelle liberté. Et c'est essentiellement le message que Paul va prendre en empruntant une image, une histoire d'un jeune enfant qui est mineur. Et on trouve ça dans le chapitre 4. Il prend l'image d'un fils. Et disons que ce fils est un héritier. Un gars, c'est un enfant d'un riche. Il est l'héritier de son père. Mais avant d'avoir atteint l'âge adulte, et c'est le raisonnement, c'est l'image ici de l'histoire, c'est avant d'avoir atteint l'âge adulte, alors qu'il est mineur, il n'est pas vraiment différent des autres. Il n'est pas vraiment différent des esclaves, par exemple, qui travaillent pour son père. Il y avait beaucoup d'esclaves dans ce temps-là. Et les esclaves, ce n'était pas pareil comme ici, on l'a déjà expliqué, mais juste pour des gens qui peut-être qui viennent de s'ajouter à l'Assemblée depuis quelques mois, on parle d'esclaves, mais les esclaves, c'est différent. On n'était pas esclaves pour une question de race. Tout le monde pouvait être esclave. Par exemple, si tu devais de l'argent à quelqu'un, tu pouvais devenir, pour payer ta dette, tu pouvais devenir l'esclave de ton créancier, si tu veux. C'est vraiment différent. On a toujours compte. Et même d'ailleurs le christianisme qui a eu une belle influence pour abolir l'esclavage à travers les années, mais c'était différent. Donc, tu avais des serviteurs, tu avais ces esclaves qui étaient dans la maison, et lorsque un jeune garçon est mineur, il avait un tuteur auquel il était redevable et à qui il devait rendre compte. Il était encadré. C'est un mineur, donc il ne pouvait pas disposer des biens comme il voulait, il avait une retenue, il était encadré, tout ça. Alors, Paul prend cette image et il dit, à l'âge mineur, le fils est comme les esclaves qui travaillent pour son père. Il est sous l'autorité des autres comme des tuteurs. Et c'était comme ça se faisait. Il doit suivre les règles de la maison, il doit les obéir, il a probablement des responsabilités, des tâches qu'il doit accomplir. Alors, dans l'expérience quotidienne du jeune homme, là, dans le day-to-day, là, dans son expérience quotidienne de tous les jours, il n'avait pas ce sentiment d'être un héritier. Il était comme les autres. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment lorsqu'il atteint l'âge adulte, lorsqu'il devient adulte, à cet instant-là, il passe de l'état de subordonné, comme un esclave, et il entre dans un nouveau statut libre. Et il y avait tout un rituel, autant chez les Juifs, hein, le bar mitzvah, encore aujourd'hui, les Juifs vont célébrer ça lorsqu'un jeune homme va devenir officiellement adulte. Eh bien, dans ce temps-là, c'était pareil, et c'était particulièrement vrai aussi, même chez les Romains. Ils avaient tout un rituel, c'était très officiel. Lorsque tu passais, tu avais un rite de passage, qu'on appelle en anglais « rites of passage », où tu passais d'un statut à un autre statut, mineur à adulte, où tu es libre. Et là, il y avait toute une cérémonie où et la cérémonie voulait qu'on te change de toge. Tu avais une toge de mineur, d'enfant, qu'on appelait toge prétexte, toga prétexta, et on te changeait de toge, et là, on te donnait une toge qui s'appelait viril. La toga virilis. Hein, une toge virile. Ce matin, moi, j'ai une toge virile d'adulte. Mais c'est ça, c'est un linge, c'est une toge qu'on reconnaissait. On est en train de dire, voici, par ce changement de toge, on reconnaît, on le dit publiquement, voici le jeune, le mineur vient de changer de statut, il est maintenant adulte, et c'est officiel, il est maintenant libre. D'accord? Et c'est l'image qu'on a ici. Et cette cérémonie-là avait pour but de montrer à tous qu'il était libre. Il profite maintenant d'une pleine citoyenneté romaine, avec tous les droits et les privilèges. Il n'est plus sous un tuteur qu'on appelait paidagogos, un tuteur auquel il était redevable et à qui il devait rendre compte. Maintenant, c'était fini, il était libre. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeune pouvait exercer un contrôle total sur ses biens. Et lorsque le jeune atteint l'âge adulte, il change de statut. Il passe de l'état d'un esclave, en quelque sorte, responsable, comme tous ceux qui travaillaient pour son père, dans la maison, et il devient instantanément un homme libre qui peut disposer de ses biens comme il veut. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est ton histoire. C'est ça qui se passe avec toi. C'est ça qui s'est passé avec toi, c'est en Jésus-Christ. Lorsque le temps est arrivé, lorsque Jésus est venu, nous étions tous des esclaves, nous étions tous comme des subordonnés. Et ce que Paul appelle au verset 3, nous étions tous sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. En d'autres mots, on était esclaves de vouloir nous sauver nous-mêmes, on était esclaves de nos idoles, esclaves enchaînés à nos péchés, à nos passions. On était comme ça. Mais lorsque Jésus est venu, notre statut a changé en un clin d'œil. Et lorsque tu viens à Jésus-Christ pour recevoir son salut, tu passes d'un statut à un autre. C'est là vraiment que tu passes de la personne où tu étais lié à ton péché, lié à tes passions, et là, tu passes à un nouveau statut, une personne libre. Libre. Alors la question, c'est pourquoi je vais retourner en arrière? Pourquoi je vais vivre comme je vivais avant, avec mes anciennes passions, mes anciennes idoles? Pourquoi? Vis comme une personne libre. Marche avec Dieu. Tu as été sauvé, changé par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Tu as été adopté, c'est fini. Tu as maintenant cette liberté de pouvoir faire le bien, maintenant que tu es un enfant de Dieu et que tu as l'Esprit-Saint en toi. Ne te laisse plus dominer par tes anciens maîtres. Ne tourne pas en arrière. Vive comme tu vivais avant. Jésus est venu pour te libérer de tout ça, te donner cette nouvelle liberté, un nouveau statut. L'auteur historien de la guerre civile américaine, Shelby Foote, a écrit 3 volumes sur l'histoire de la guerre civile. Et dans l'un de ces volumes, il explique ce qui est arrivé à la fin de la guerre, à la proclamation du président lorsqu'il a décrété l'émancipation des esclaves en 1863, et aussi une modification au 13e amendement de la Constitution des États-Unis, interdisant officiellement l'esclavage aux États-Unis en 1865. Les recherches de Foote ont révélé que ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé après que les esclaves ont été officiellement déclarés libres. Une chose est très étrange. C'était gros et ils étaient maintenant libres. Et il a observé quelque chose dans le Sud, c'est que les esclaves, maintenant qu'ils étaient libres, ils savaient très bien qu'ils étaient libres, mais les esclaves vivaient encore comme des esclaves. Ils sont allés les voir, puis ils ont demandé, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes libres? Ils disent, oui, oui. Ils lui ont demandé, pourquoi vous servez encore les anciens maîtres et tout ça? Vous vivez encore comme vous viviez avant, mais maintenant vous êtes libres. Et ils ont dit, c'est tout ce qu'on a connu. Et ils vivaient comme avant. Et pourtant, quelque chose, ils avaient finalement obtenu ce qu'ils avaient souhaité toute leur vie, ce que maman a souhaité, ce que papa, ce que grand-maman avait souhaité et espérait avoir un jour. Maintenant, ils l'avaient, ils étaient officiellement libres, mais ils vivaient comme dans le passé. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que vous êtes en train de faire la même chose. Bien des chrétiens font la même chose. Ils vivent comme avant, lorsqu'ils étaient pris, pognés, esclaves à leur passion et leur péché, tout ça. Mais pourquoi vous faites ça? Maintenant, avec l'Évangile dans vos vies, c'est complètement différent. Vous n'êtes même plus la même personne. Vous avez tout en vous pour grandir et glorifier Dieu. Vous l'avez en vous. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes maintenant libre. Et c'est ce que Paul essaie de nous montrer ici. En Jésus-Christ, nous avons obtenu une liberté tout à fait exceptionnelle. Alors pourquoi vivre comme dans notre passé, pogné? Pourquoi vivre comme si nous étions encore des esclaves de nos anciennes passions? On retourne à nos chaînes, on retourne à ce qui nous tenait captifs, nous rendait vraiment au fond de nous malheureux. Peut-être des plaisirs passagers, mais au fond de nous malheureux. On retourne à nos idoles qui nous ont contrôlés tellement longtemps. Alors quoi faire? Paul nous le dit. Il dit, refuse de te laisser entraîner aux chaînes de ton passé. Parce que maintenant, tu es un fils adulte. Tu es maintenant adulte. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es un héritier. Tu es libre maintenant. Tu n'as plus besoin de vivre comme un esclave, comme avant. Et c'est ce que l'Esprit du Fils a fait en toi. Il t'a donné une nouvelle liberté, hommes et femmes. Le langage de Paul est tout à fait remarquable ici. Et je sais ce qui s'est passé. Probablement, quand j'ai lu le passage, les femmes ici et là, partout dans l'Assemblée, est-ce que ça vous fatigue, ce parfois des termes tellement masculins? Vous savez, il y a des gens qui ont lu ça et ont dit, vous êtes tous fils de Dieu. Il y a des gens, ça les achalait, puis ils trouvaient, vraiment, c'est pas juste ça, on devrait peut-être être plus inclusif puis rentrer les femmes dans ça. Voyons comment, il faudrait changer les termes. Il y en a qui ont essayé, même la NIV, la Bible anglaise, a corrigé ça. Eux, pour eux, c'est une correction. Ils ont dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Ça fait pas mal inclusif. Laissez-moi vous proposer que c'est une erreur. Et c'est ce que Tim Keller soulève comme observation, une très bonne observation d'ailleurs, qu'il fait dans son commentaire de Galates. Puis il dit ceci, il dit, c'est tout à fait le contraire. S'il y a eu une expression qui était très inclusive, qui était révolutionnaire, radicalement égalitaire, c'était bien de traiter les femmes de fils. Alors, regardez bien ce qui se passe. Dans les cultures anciennes, les filles n'avaient pas le droit de recevoir les héritages. Voyez-vous, on vivait à l'époque dans les cultures anciennes, dans bien des cultures. C'était un peuple patriarcal. Les filles ne pouvaient pas, c'était illégal, tu ne pouvais pas être une héritière. Mais voilà que le Seigneur est en train de dire, nous sommes tous fils. qu'est-il en train de dire? C'est que les femmes et les hommes, maintenant, en Jésus-Christ, reçoivent leur héritage. Amen? Voyez-vous comment c'est... souvent, on va accuser la Bible de descendre la femme. C'est le contraire. Le contraire, voyez-vous, elle élève la femme. Elle l'emmène à un autre statut. Il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, les Juifs, les Grecs, esclaves, libres, aux yeux de Dieu, tous maintenant sont un en Jésus-Christ. On le voit déjà là. On voit déjà la différence et c'est frappant. L'Évangile nous dit, nous sommes tous fils de Dieu, laissant entendre que nous sommes tous héritiers, hommes et femmes. De vouloir changer ça manque la richesse, la puissance de cette expression-là ici, parce que c'est tellement fort. Nous avons changé de statut, nous sommes maintenant libres, alors ne retournons pas à notre vie passée. Galates 5.1 dit, « C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. » Et à travers toutes les lettres de Galates, Paul insiste et exhorte les chrétiens de Galates à ne pas délaisser l'Évangile, à ne pas retourner en arrière. D'ailleurs, ça commence déjà au premier chapitre lorsque Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. » Et comme un refrain, Paul répète à nouveau notre nouvelle liberté en Jésus-Christ et nous exhorte à vivre selon cette nouvelle liberté-là. Et verset 7 nous dit « Tu n'es plus esclave, mais tu es un fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Ne l'oublie pas. Tu es le fils de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. C'est une nouvelle liberté. » Alors, l'esprit d'adoption nous donne une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle liberté, et aussi nous donne un nouveau cri. Un nouveau cri. Verset 6, ça dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. » Et tout ce que Paul a exposé au cours de cette lettre nous amène ici. C'est le point culminant, c'est l'apogée de la lettre. Voici le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Il produit dans nos cœurs le cri d'un enfant, Abba, qui est comme l'équivalent de papa. Papa. L'Esprit d'adoption a fait de nous un fils de Dieu. On a été adoptés. Nous sommes maintenant le fils de Dieu. On est son héritier. Et il répand dans nos cœurs un nouveau cri. Un cri profond, papa. On peut maintenant appeler Dieu papa. Maintenant, on se retrouve à deux autres endroits seulement, cette expression-là, Abba, Père. Dans Romains 8, qui est essentiellement un parallèle semblable, dans la même ligne de pensée que le passage que nous avons ici, dans un autre passage, dans Jean, dans Marc 14, 36. C'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémané. Ici, il sait que la croix s'en vient, approche, il va mourir. Et non seulement qu'il va mourir, il va prendre sur lui tous les péchés des gens, tous les péchés du monde. Il va être le sacrifice. Et c'est là, dans sa prière, qu'il va appeler Dieu, Abba, Père. C'est le cri du Fils unique de Dieu, alors qu'il prie son Père dans le jardin de Gethsémané, qu'il est angoissé, il souffre, parce que la croix approche. Et dans ce jardin-là, les paroles Abba, Père, sortent de la bouche de Jésus dans un moment tellement intime avec son Père, un moment de confiance, des paroles d'affection d'un enfant. Et vous savez quoi? Les érudits disent que c'est ici, dans le jardin de Gethsémané, où que nous voyons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité quelqu'un appelé Dieu, Papa. Première fois dans l'histoire. Et là, alors que Jésus appelle son Père à nouveau, quelque chose de tout à fait inhabituel arrive. Le Père détourne son visage. Il se distance de son Fils. Et si le Père abat s'est détourné de son Fils, c'est afin de nous envoyer l'Esprit du Fils, afin que nos cœurs puissent maintenant appeler Dieu Abba, Papa. C'est afin que Dieu puisse nous adopter, et que nous soyons ses enfants, et que nous aussi, nous ne soyons pas laissés comme des orphelins, mais qu'on puisse avoir un nouveau Père, le Père céleste, parfait, qui est le Père, finalement, qu'on a toujours souhaité avoir. même que vous ayez le meilleur père sur terre, que vous avez eu un modèle comme père, Dieu est parfait et il est le père parfait. Il est le père vraiment au fond de notre cœur. On aurait toujours voulu avoir. Alors vivons comme des fils. Vivons comme des fils, car l'esprit d'adoption nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle liberté et un nouveau cri. Papa. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier pour ces grandes vérités, pour l'adoption que tu nous as adoptés, Seigneur. On veut te louer, te bénir, te rendre grâce. Et Seigneur, on réalise tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et peut-être, Seigneur, s'il y a une personne ce matin qui ne te connaît pas encore comme son sauveur, qu'elle puisse céder sa vie à Jésus ce matin. Qu'elle puisse reconnaître qu'elle est pécheresse et pécheur et qu'elle a besoin de toi, de Jésus pour être sauvée, pour devenir justement un héritier, une héritière, pour avoir une nouvelle famille, une nouvelle identité, une nouvelle liberté que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, déjà, nous voulons te remercier de nous avoir adoptés, pardonné nos fautes, d'avoir fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Maintenant, nous voulons partir d'ici résolus de vivre comme des héritiers et des fils de Dieu, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.